au niveau de la foi. Amen. C'est la vraie foi. Je crois que je l'ai maintenant. Que ça soit la guérison, que ça soit la prospérité, que ça soit le salut, que ça soit n'importe quelle bénédiction que Dieu vous a promis, il faut croire que vous l'avez reçu et vous allez pouvoir marcher dans la lumière de ces bénédictions. Ben, il y a une chose que on sait bien. Vous le savez, moi je le sais, c'est que c'est pas tout le monde qui est en train de vivre dans la lumière de cette vérité. Est-ce que vous êtes d'accord? On sait qu'il y a même des personnes fait une prière et ils ont dit la bonne chose et ils pensent avoir cru la bonne chose, mais ils voient toujours la manifestation. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc pourquoi? Il y a plusieurs raisons pour cela, mais aujourd'hui on veut toucher à un sujet qui est bien important et le titre que j'ai mis pour le message, c'est « Garder la porte ouverte aux bénédictions ». Parce que c'est à nous dans le fond, Dieu a dit « Je mets devant vous » la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il a dit, choisissez la vie. Donc, vraiment, on voit que les bénédictions de Dieu, c'est pas une question de chance, mais c'est une question du choix. On choisit d'être béni. On choisit de marcher dans la lumière de qu'est-ce que Dieu a promis pour nous. Et on peut garder la porte ouverte ou on peut soi-même fermer la porte aux bénédictions de Dieu. Chaque promesse de Dieu et chaque bénédiction de Dieu est conditionnelle. C'est conditionnel de un à notre foi, qu'il vous soit fait selon votre foi, mais conditionnel aussi sur quelques autres choses. Hein? Et on a déjà parlé un peu de ça il y a quelques semaines, mais aujourd'hui, surtout avec le repas du Seigneur qu'on va prendre, on voulait le souligner encore une fois. Il dit ici à Marc 11, 23 et 24, on vient de lire, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, pourrez s'accomplir. Mais verset 25, et 26 sont bien intéressants. Il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. N'est-ce pas intéressant que Jésus vient de dire, si vous croyez que ce que vous dites s'accomplira, vous le verrez s'accomplir. N'est-ce pas intéressant que tout de suite après il dit, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ça me montre une chose, c'est que le non-pardon peut fermer la porte à la puissance de Dieu et aux bénédictions de Dieu. Si mon cœur n'est pas en règle avec Dieu et si mon cœur n'est pas en règle avec mon entourage, je ne suis pas dans une position de recevoir les bénédictions de Dieu. Même si Dieu veut me bénir, il ne peut pas parce que c'est moi qui a fermé la porte. C'est pas lui. C'est moi. J'ai fermé la porte parce que j'ai de la rancune, j'ai de l'amertume, j'ai quelque chose contre quelqu'un et je refuse de pardonner. Et si je refuse de pardonner, mon Père ne peut pas me pardonner et je suis bloqué et la porte est fermée. Amen? Donc, première chose que je ferai, si vous avez prié, si vous avez vraiment, vous croyez avoir cru dans votre cœur, d'avoir reçu une chose, mais vous ne voyez pas la manifestation, ça se peut que c'est juste une question de patience et persévérance. Et vous avez besoin de patienter plus longtemps parce que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Ou ça se peut aussi que vous avez fermé la porte et que vous avez mis comme un bâton dans la roue et vous avez empêché la bénédiction de se manifester. Amen? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On va voir qu'est-ce qu'on va faire dans une minute, mais d'abord, on va lire un autre verset qui va de pair et qui nous montre encore le même principe. 1 Pierre, chapitre 3. Regardons 1 Pierre, chapitre 3. Et on va lire à partir de verset 7. Et au début, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le message? Mais vous allez tout voir et tout comprendre dans une minute. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Vous dites, mais je pensais qu'on parlait des bénédictions de Dieu, mais là, vous parlez du mariage. Mais on va voir que les deux vont du pair. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Vous pouvez souligner cette phrase, la grâce de la vie. C'est quoi la grâce de la vie? C'est sûr, la grâce de la vie, c'est le mot grâce veut dire don, mais ça veut dire aussi une puissance, Le pouvoir de Dieu, par Jésus-Christ, par son sacrifice, par la foi en lui, nous avons reçu le don de la vie éternelle. Mais moi, je crois que nous avons aussi accès à une grâce, une puissance pour notre vie quotidienne. Il y a une grâce de la vie. Il y a une grâce qui vient du Seigneur, qui nous aide à vivre dans la victoire. Il y a un pouvoir qui vient de lui, qui vous donne la capacité de dire non au péché, de dire oui à Dieu, et de vivre une vie qui est sainte, qui est saine, et qui est vraiment victorieuse et comblée. Combien de vous avez remarqué que sans son aide, vous êtes dans l'impossibilité de le faire? Moi, je l'ai déjà fait, je m'en souviens des premiers jours de ma vie chrétienne, j'étais comme un chrétien yo-yo, j'avais les hauts, les bas, j'avais comme un désir de servir le Seigneur, mais je tombais souvent, je faisais des choses que je ne devrais pas faire. J'étais jeune, hein, je suis né de nouveau à 10 ans, mais de 10 à 16 ans, c'était vraiment une vie chrétienne, une montagne russe spirituelle. Pourquoi? Parce que j'étais pas en train de vivre dans la grâce de la vie. Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut comprendre de quoi je parle, ou est-ce que je suis la seule qui a passé par cela, hein? Je pense qu'on peut tous comprendre, n'est-ce pas? Mais ici, on va voir une clé. Il dit ici, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'il soit ainsi. Qu'il soit comment? Que vous, Marie, c'est un principe qui s'applique même aux femmes aussi, que vous viviez avec sagesse et que vous honoriez les autres. Si nous avons de l'honneur pour les autres, si nous sommes en train, tout simplement, on peut dire, bref, si nous sommes en train d'aimer les autres comme on aime soi-même, on va garder la porte ouverte et on ne va pas avoir les obstacles à nos prières. Mais le contraire est vrai. Si je n'honore pas les autres, si je n'ai pas de l'honneur pour vous autres, pour ma femme ou pour qui que ce soit, si je ne marche pas dans l'amour, la Bible est claire que je vais avoir les obstacles à mes prières. La porte va être fermée aux bénédictions de Dieu. Amen?
Amen.
Qui veut avoir une porte fermée? Personne. Mais qui veut avoir la porte grandement ouverte aux bénédictions de Dieu? Encore là, on voit l'importance de vivre en harmonie, de marcher dans l'amour, de pardonner et de ne jamais avoir de la rancune dans notre cœur. Verset 8 dit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez pas mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter, quoi? Afin d'hériter la bénédiction. Donc là, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on soit béni, n'est-ce pas? Vous êtes appelés à hériter les bénédictions de Dieu. Et Dieu veut tout faire, il a déjà tout fait pour nous bénir. En fait, la Bible dit que nous avons déjà été bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en lui. Je suis déjà béni, mais si je ne marche pas dans la lumière comme il est dans la lumière, si je ne marche pas dans l'amour, la porte va rester fermée, je vais avoir les obstacles à mes prières et je ne vais pas jouir de cette vie bénie. Vous êtes d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai quand même. Alléluia. Ça va de pair aussi avec 1 Corinthiens chapitre 11. Et regardons, et ça nous amène au sujet du repas du Seigneur et la Sainte Cène que nous allons recevoir dans une minute. Pas dans une minute, mais dans quelques minutes. Il y a des gens qui vont prendre ça littéralement, vont commencer à me timer, hein. Car toutes les fois, vous savez la signification d'une montre à un prédicateur? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça signifie, une montre à un prédicateur? Absolument rien. Non. Non. J'essaie quand même de respecter le temps. Mais 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26 dit, et ça parle du repas du Seigneur, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, d'une façon indigne. Cela ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez digne vous-même, en vous-même, pour prendre le repas du Seigneur. Parce que si c'était le cas, personne ne serait capable de le prendre. Vous êtes d'accord? Ma justice en moi-même vaut rien, mais sa justice en moi, ça vaut tout. Donc ici, on continue, verset 28. « Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, souligne le mot discerner, le mot du Seigneur, pardon, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement, tu peux souligner le mot jugement, contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, soulignez cela, jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. N'est-ce pas intéressant? Là, on a vu la semaine passée que la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils soient prospères à tous égards et qu'ils soient en bonne santé, comme prospère l'état de leur âme. On sait que Jésus a déjà acheté la guérison divine pour nous et la santé divine pour nous. On sait que il a déjà porté nos souffrances. On sait que c'est jamais la volonté parfaite de Dieu pour un chrétien d'être malade. Vous êtes d'accord? Pourquoi donc est-ce qu'il y a des chrétiens? Là, ce verset s'adresse pas aux non-croyants, mais ça s'adresse aux chrétiens. Et ici, on voit pourquoi. C'est pas la seule raison. Des fois, des personnes sont malades parce qu'ils manquent de connaissances. Des fois, c'est parce qu'ils manquent de sagesse. Ils vont faire les choses, ils vont pas dormir comme il faut, ils vont pas manger comme il faut, et ils vont s'exposer aux microbes inutilement. Ils vont tomber malades juste parce que nous vivons dans un monde infecté par le péché. Vous êtes d'accord? Mais il y a d'autres personnes qui ont ouvert la porte à la maladie et qui ont fermé la porte à la guérison. Comment? Parce que, peut-être c'est le non-pardon, peut-être c'est le rapport avec leur femme, leur épouse, quelqu'un, avec leur époux, quelqu'un d'autre, ou parce que, comme la Bible dit ici, ils n'ont pas discerné le corps de Jésus-Christ. Et discerner le corps de Jésus, il y a deux possibilités là. Il y a des personnes qui ne discernent pas le corps de Jésus dans le sens qu'ils ne comprennent pas que le sang de Jésus nous a sauvés de nos péchés, mais le corps de Jésus qui a été meurtrisé, qui a été battu, son corps nous a sauvés de la maladie. Et si quelqu'un est dans l'ignorance, mon peuple périsse faute de connaissance. Donc, il y a certaines personnes qui ne discernent pas le corps de Jésus et ils ne comprennent pas que c'est pas juste pour mes péchés que Jésus est mort. Ils ne discernent pas le fait qu'il est mort aussi pour vos maladies. Amen? Il y a d'autres personnes qui vont pas discerner le corps de Christ dans le sens que Donald, Thérèse, hein, Clément, tout le monde ici qui est en Jésus-Christ font partie de son corps. Vous êtes des membres en particulier. Et c'est-à-dire que si j'ai quelque chose contre Stéphane, qui n'est pas du tout le cas, je trouve qu'il est bien gentil, je l'aime beaucoup, mais si j'aurais quelque chose contre lui, et je commencerais à le mépriser, parler dans son dos, le critiquer, etc., etc., je suis pas en train de discerner le corps de Christ, parce que dans le fond, je suis en train de parler contre Jésus. Amen? Et si je ne discerne pas le corps de Jésus, je ne marche pas dans l'amour avec les membres du corps de Christ, je suis en train, en fait, d'ouvrir la porte à la maladie et de fermer la porte à la guérison. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Donc, je pense que si c'est vrai pour la guérison, je crois que c'est vrai pour toutes les autres bénédictions aussi. Que ça soit les bénédictions financières, que ça soit n'importe quel domaine de votre vie spirituelle ou naturelle, si vous n'êtes pas en train de discerner le corps de Jésus, si vous ne marchez pas dans l'amour, et ça, c'est pas juste envers les autres non plus. Combien de vous savez que vous êtes membre du corps de Christ et vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il y a bien des chrétiens qui vont dire, mais moi, j'ai rien contre les autres, mais ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. C'est-à-dire, ils vont aller faire des choses avec leur temple qu'ils ne devraient pas faire. Amen? Comme la Bible dit, quelqu'un qui prend son temple et qui l'unit avec une prostituée, il devient un seul corps avec elle. Amen. Donc, quelqu'un qui commet les péchés sexuels, quelqu'un qui fait n'importe quoi contre son corps physique, ou pas juste son corps physique, parce que savez-vous que les péchés de l'esprit sont encore plus graves et sérieux que les péchés de la chair, souvent. Amen. Et souvent, on a l'idée que, oh, mais c'est juste à moi que je fais mal. Non, c'est pas à vous que vous faites mal, parce que vous faites partie du corps de Christ. Et si vous faites quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas sain, qui n'est pas correct, vous allez faire mal à tout le corps. Le corps entier va souffrir. Quand tu fais du bien, tout le corps va en profiter. Mais quand tu fais qu'est-ce qui n'est pas correct, tout le corps va souffrir. Et je sais que le message aujourd'hui, c'est un peu plus sérieux même que d'habitude, mais moi, je suis sérieux. Je veux vraiment atteindre le maximum de notre potentiel en Jésus-Christ en tant qu'individu, dans ma famille, dans ma vie personnelle, mais aussi en tant qu'Église. Moi, je veux aller jusqu'au bout. Et vous? Et on a dit, on a eu des prophéties des hommes de Dieu pour qui on a beaucoup de respect. Ils ont dit que 2003, par exemple, c'était une année de consécration, de préparation, de séparation. 2004, c'était supposé d'être une année de plus, mais 2005, une année de jugement. Mais il a dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé. Donc, moi, je dirais, faut pas attendre janvier 2005 pour commencer à se juger soi-même. Il faut maintenant commencer à se juger soi-même. Et on vient de lire le verset. Si, c'est ici, on va le lire encore, en Corinthiens chapitre 11 et en verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et juste pour vous dire une chose, juger n'égale pas condamner. Hein? Juger n'égale pas condamner. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Ils lisent, il faut que je me juge moi-même. Et donc, ils disent, oh, il faut que je me condamne. Non, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Donc, on ne parle pas de condamner. Il y a deux choses qu'il faut souligner. La Bible ne dit pas de juger les autres. Il dit qu'il faut qu'on se juge soi-même. Bien entendu, il y a des fois où en tant que leader dans une église, ou en tant que leader, il faut qu'on juge l'ensemble des situations. L'apôtre Paul avait besoin de passer jugement des fois sur certaines choses qui arrivaient, surtout à l'église de Corinthe, parce que c'était une église excessivement charnelle, avec beaucoup de divisions et beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes. Donc, Paul avait besoin des fois, comme il a dit, de sortir la verge, amen, d'amener une correction. Mais aujourd'hui, c'est un message d'espoir qu'on prêche. Parce que dans le fond, on voit la miséricorde de Dieu. On voit l'amour de Dieu. Il dit que si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé. Regardons, il y a un autre verset, c'est pas dans vos notes, mais ça continue. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, vois-tu, le jugement de Dieu, le but de son jugement envers son Église, c'est pas de condamner, c'est le contraire, c'est de vous épargner de la condamnation du monde. Amen. Donc, juger dans le contexte de 1 Corinthiens 11 n'égale pas condamner. Donc, ce n'est pas une question que Dieu veut. En fait, ça, c'est une bonne partie du problème. Avec beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'ils manquent l'estime de soi qui vient de Dieu. Ils ne savent pas qui ils sont en Jésus. Et déjà, l'ennemi, il essaie de les condamner constamment, constamment. Moi, j'aime bien ce que mon pasteur a dit. Souvent, il a dit que la différence entre la condamnation et la conviction du Saint-Esprit, c'est que la condamnation est générale. Vous vous sentez mal, c'est comme, oh, je suis comme un ver de terre, je ne vaux rien. Tandis que la conviction de l'esprit, c'est comme un laser qui est précis, ça va vous montrer, il y a telle chose ici qui n'est pas correcte et que vous avez besoin de mettre en ordre. Et à chaque fois qu'il donne la conviction, il vous donne toujours la capacité et le pouvoir d'en sortir et de dealer avec. Amen? Dieu ne va jamais vous montrer quelque chose qui n'est pas correct dans votre vie sans vous donner la grâce de la vie nécessaire pour vaincre le problème. Amen. Donc, si vous voyez que le doigt de Dieu est en train de pointer à une chose dans votre cœur qui n'est pas correcte, réjouissez-vous en disant, « Oh, merci, papa, tu m'as montré qu'il y a telle chose. » Et je sais, si tu m'as montré ça, c'est parce que tu ne veux pas que je sois condamné. Amen. Oh, tu m'aimes tellement, tu veux m'épargner. Donc, tu veux m'épargner, c'est pourquoi tu me montres ça, et je sais que le même doigt qui m'a montré ça est assez puissant pour enlever le bobo. Mais il faut que je te donne la permission de l'enlever. Amen. Donc, une grande différence entre condamnation et conviction. Juger égale pas condamner. Et c'est vraiment intéressant dans ce contexte. J'ai vu, moi je suis pas un érudit en grec, mais je sais comment étudier quelques mots en grec, et je vois que il y a quelque chose de vraiment intéressant. Alléluia, dans ce verset. Le mot discerner, quand la Bible dit ici en verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est le même mot qui est utilisé pour juger vous-même. OK? La Bible n'est pas en train de dire qu'on est supposé de condamner le corps de Jésus, on est supposé de discerner ou de juger le corps de Jésus. Et de la même façon, nous sommes supposés de nous juger. Il faut qu'on se juge soi-même. C'est-à-dire, il faut qu'on se discerne soi-même. OK? Il y a comme un processus. En fait, il y a trois mots qui sont utilisés ici. Hein? Le premier mot, c'est diakrino, discerner. Si vous diakrino vous-même, vous ne serez pas jugé, qui est tout simplement le mot krino, qui veut dire d'être avisé. Ou de, c'est comme, comment est-ce qu'on pourrait dire cela? Est-ce que je peux vous avouer quelque chose que j'ai fait? Une confession devant vous. Vois-tu, moi, je suis une personne, quand je fais quelque chose, j'aime le faire et j'aime pas perdre trop de temps. Donc, quand je roule en auto, j'ai développé une mauvaise habitude. Hein? On faisait qu'est-ce qu'on appelle les stops américains. Je ne sais pas pourquoi ils disent stop américain, parce que dans le fond, je vois les Français, les Canadiens et tout le monde qui font ça, et des fois, c'est pire qu'aux États même. Mais souvent, j'ai développé cette mauvaise habitude que, au lieu d'arrêter au stop, je cédais le passage. Hein? C'est comme ralentir un peu, hop, et puis on continue. Et j'étais tellement habitué que je me suis pas rendu compte même. Et une fois, mon beau-père était là, il dit, « Hey, Ken, tu dois pas vraiment arrêter. T'as raison, hein? » Mais vois-tu, c'est comme ça. Il fallait que je me juge moi-même, parce que sinon, si j'aurais continué, ça se peut bien que le policier allait me juger aussi. J'aurais pu être obligé d'aller devant un juge même. On ne sait pas si jamais. On va juste prendre une hypothèse. Vois-tu, quelqu'un qui commet un crime, ok, doit passer devant le juge. Mais pendant devant le juge, la personne n'est pas condamnée. Un juge peut donner un avertissement, n'est-ce pas? Il peut dire, voici qu'est-ce que j'ai constaté. Oui, c'est une infraction. Oui, tu as fait telle chose que tu n'aurais pas dû faire. Bon, et je t'avise il faut que tu arrêtes ça, sinon la prochaine fois, tu vas avoir des troubles. Amen? La prochaine fois, tu vas être condamné. Et le juge peut essayer de sauver une personne de la condamnation, n'est-ce pas? Et moi, je vois, c'est la même chose avec Dieu. Souvent, il y a des choses que, si la personne peut se juger lui-même, il n'aura même pas besoin de passer devant le juge, et s'il ne passe jamais devant le juge, il ne court même pas le risque d'être condamné. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est la même chose avec le Seigneur. Si je me juge moi-même, je ne serai pas jugé par Dieu. Mais quand Dieu me juge, en tant que chrétien, son but, souvent, c'est de m'avertir. Donner un avertissement. Ou de dire, OK, Maintenant, c'est vraiment entre tes mains. Si on continue, des fois, il dit, bon, vas-y, si tu veux continuer de même, continuez. Mais je veux t'épargner. Je ne veux pas que tu sois condamné avec le monde. Mon but, je t'aime. Je veux t'épargner la misère, la douleur, la peine d'être condamné avec le monde. Amen? Est-ce que vous me suivez? Donc, moi, j'avais besoin de me juger, de discerner, c'est-à-dire de prendre un temps de réflexion, de regarder mes habitudes de conduite et de dire, tu sais quoi, c'est vrai que j'arrête pas comme il faut que je commence à arrêter l'auto comme il faut. Sinon, je vais être obligé de passer par une autre étape que je ne veux pas passer par cette étape-là. Et moi, je me suis jugé, moi, je ne suis pas encore parfait là-dedans. Des fois, ma femme a besoin de me rappeler. Oui, hein, un peu, hein. Donc, mais parce que je me suis jugé moi-même, je sais, j'ai aucune peur, aucune crainte. Je ne serai pas jugé pour ça. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui ne va pas avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a des domaines que vous avez besoin de mettre en ordre? Parce que si vous vous jugez, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de vous discerner. C'est diatrinos. Et le mot dia, c'est comme, ça veut dire comme un canal de pensée. C'est comme, OK, on fait une analyse. On regarde ça comme il faut. C'est comme un processus d'analyse. On regarde notre vie de proche et on voit qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Parce que si je passe par ce canal-là, je ne serais pas obligé de passer devant le tribunal, on dirait. Je n'aurais même pas besoin d'être avisé, jugé, et c'est sûr que je ne serais jamais condamné. Amen? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être condamnés? Non! Donc, qu'est-ce que vous faites pour ne pas être condamné? Il faut que vous vous jugiez vous-même. Alléluia! Et c'est une bonne chose. Tout le monde dit, c'est positif! C'est vraiment une bonne affaire. Je ne prêche pas un message de condamnation. Et je sais que ça se peut qu'il y a des personnes qui ont des luttes avec certaines choses, qui disent, oh, mais là, ils prêchent la condamnation. Non! Je prêche la méthode d'éviter la condamnation. Amen? Et la méthode de Dieu, dans sa miséricorde, il nous a donné la capacité de se juger soi-même avant d'être obligé de passer par le jugement de Dieu et avant d'être condamné avec le monde. Amen? Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je vais vous donner juste 5 choses que vous et moi, nous pouvons faire si on va se juger soi-même. Est-ce que ça vous intéresse? On veut que ça soit pratique aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez vous juger vous-même pour éviter la condamnation et pour garder la porte ouverte aux bénédictions? Dans le fond, c'est ça notre sujet, garder la porte ouverte aux bénédictions de Dieu. Numéro 1, soumettez-vous à l'autorité de la parole. Soumettez-vous à l'autorité de la parole. 2 Timothée 3, 16 dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, si vous n'êtes pas convaincu que ce livre est inspiré de Dieu, vous êtes fait. C'est aussi simple que ça. Si vous n'êtes pas convaincu que Dieu a raison, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour vous. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de monde, même des chrétiens, qui ne sont pas soumis à l'autorité de la parole. La parole dit de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose, mais eux autres vont faire les exceptions aux règles. Ah oui, je sais que la Bible dit, mais je sais que le Seigneur va comprendre. Non, il ne va pas comprendre. Si vous voulez faire des compromis ou si vous voulez tordre sa parole, il ne va rien comprendre de ça parce qu'il a dit, il est ainsi. Et votre job, votre rôle, c'est de dire, OK, oui, amen. Et c'est pourquoi je dis souvent, avant même d'ouvrir votre Bible, avant de venir à l'église, avant de faire votre temps de dévotion, il faut que vous disiez au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais trouver là-dedans aujourd'hui, mais une chose que je sais que ça vient de toi, que c'est la vérité. Vous savez, des choses que vous avez lues, vous savez des choses que Dieu dit à propos de comment un chrétien est supposé de se conduire, comment un homme de Dieu, une femme de Dieu est supposé de quel genre de comportement il devrait avoir, quel genre d'exemple on est supposé d'être. Et au lieu de faire des excuses et de dire, oh, mais le Seigneur connaît mon cœur, ou, hey, écoutez, oui, le Seigneur connaît ton cœur, et il sait que vous êtes capable de lui faire confiance et d'arriver à la pleine liberté en lui. Moi, je sais de quoi je parle, hein. Comme je dis, j'ai passé par 6-7 ans vraiment misérables dans ma vie chrétienne, les années yo-yo où j'étais haut et bas et j'ai eu des luttes avec la chair, etc. Je sais de quoi je parle. Et au moment donné, j'avais besoin de décider, est-ce que je veux vraiment servir le Seigneur ou non? Amen? Alléluia. Aucune condamnation, mais si le chapeau vous va, porte-le, hein? Jacques 4, 6 et 7 dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. C'est une soumission à l'autorité de Dieu. Il faut dire, c'est pas moi qui est chef, c'est toi qui es chef, Seigneur. C'est pas moi qui a le volant, mais c'est toi qui va prendre le volant de ma vie. Alléluia. Est-ce que vous m'aimez toujours? Numéro 2, examinez-vous vous-même dans la lumière de la parole. On parle de comment se juger soi-même. Première chose à faire, c'est de dire, OK, j'accepte la Bible comme étant la règle. Ça, c'est vraiment le standard auquel je vais vraiment mesurer et examiner ma vie. Mais puis, il faut prendre le temps de s'examiner soi-même. Quand vous lisez la Bible, quand vous écoutez une prédication, examinez pas votre prochain. Examinez pas votre mari, votre femme, en disant, oui, c'est bon, ma femme aurait dû entendre ça aujourd'hui. Celui en verset de la parole de Dieu qui parle d'une chose, et oh oui, monsieur X, il aurait dû lire cela, hein. Je pense que je vais faire une copie, l'envoyer ça par email. Non, examinez-vous vous-même. La parole de Dieu dit, en psaume 139, j'aime tellement le cœur de David. La Bible dit que David était un homme avec un cœur selon Dieu. Vous vous rappelez de ça? Et Dieu, il a dit ici en psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'est le cœur de quelqu'un qui se juge soi-même. Ça, c'est le cœur de quelqu'un qui dit, je sais que j'aime Dieu et Dieu sait que je l'aime, mais Dieu veut m'épargner de la condamnation, de la misère et de la douleur d'une vie en désordre. Amen? Donc, c'est pourquoi, Seigneur, sonde mon cœur. Passe la lampe de ta parole dans mon cœur. Montre-moi s'il y a quelque chose à moi, si je suis sur la mauvaise voie. Montre-moi. On devrait arriver à la place dans notre vie chrétienne où on aime être corrigé. C'est vrai, hein? C'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Au contraire, il nous aime, il veut nous épargner. Et c'est pourquoi on dit, oh merci Seigneur, tu vas me montrer par ta lumière les choses qui ne sont pas correctes et tu vas m'aider à régler ces choses. Alléluia. Et puis après ça, la troisième chose on fait, troisième étape, c'est confesser la vérité de la parole. Donc, on reçoit et on se soumet à l'autorité de la parole. Et deuxièmement, on s'examine soi-même dans la lumière de la parole. Et troisièmement, on confesse la vérité de la parole. Confesser veut dire, tout simplement, dire la même chose. Quand je confesse la parole de Dieu, je dis la même chose que Dieu dit. C'est-à-dire que si je suis en train de lire dans la parole, et je vois une chose, la lumière de Dieu me montre qu'il y a une telle chose qui n'est pas en ordre, que j'ai un péché dans ma vie qui n'est pas correct. Je dois confesser Dieu, il faut que je dise la même chose que Dieu dit. Seigneur, je suis d'accord, qu'est-ce que je vois? C'est pas correct. C'est un péché, j'ai péché contre toi. Mais en même temps, je vais confesser, Seigneur, que tu m'aimes, tu m'as déjà pardonné, et tu as dit que si je confesse mes péchés, que tu es fidèle et juste pour me pardonner Amen. Et de restaurer ma justice, tout le quête. Merci Seigneur, qu'il n'y a aucune condamnation. Tu as mis ce péché dans la mer d'oubli. Ça n'existe plus. Je suis ton enfant. Je suis dans la victoire. Amen.
Amen.
C'est important. Alléluia. On confesse. On s'examine et on confesse. On n'a pas besoin d'aller confesser devant le curé. On n'a pas besoin de... Des fois, la Bible dit, confessez-vous les uns vos fautes les uns aux autres. Ça, c'est correct, si le Seigneur met ça dans votre cœur. Mais sinon, vous avez un avocat avec le Seigneur, Jésus-Christ. Il est votre avocat. Il peut plaider votre cas devant le Père pour vous. Amen. Alléluia. Numéro 4. Repentez-vous selon les instructions de la parole. Quand on s'examine soi-même, c'est comme moi, je me suis dit, bon... Je me suis regardé ma façon de conduire et je me suis dit, c'est vrai. J'ai confessé, c'est vrai que je n'arrête pas comme il faut. Je fais les stops américains. Ça, c'est vrai. J'ai confessé. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis repenti. Imagine si j'aurais continué et puis les polices m'arrêtent et je dis, mais tu sais, j'ai déjà confessé ça. Le Seigneur connaît mon cœur. Tu devrais connaître mon cœur aussi. J'ai déjà confessé ça. Je sais que c'est pas correct, mais écoute, je suis pressé. J'ai déjà confessé. Vois-tu? Confesser, c'est pas assez. Il faut se repentir. Il faut changer nos habitudes. Il faut dire, OK, je faisais ça, c'est pas correct. Je tourne de bord. Je fais demi-tour et je vais faire qu'est-ce que je suis supposé de faire. Et la repentance. Trop des gens ont une attitude négative envers la repentance. Ils pensent que se repentir veut dire tout simplement de dire non au péché. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai besoin de deux personnes. Vite, 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 vite. Juste, hein, Daniel, Donald, viens ici. Vas-y. Ouais. On va faire croire que Daniel représente Dieu et la volonté de Dieu. Et lui, il représente le péché, mais c'est pas vrai, hein? Il est gentil.
Pardon de bordeaux, là.
Mais si moi, je suis en train de suivre le péché, je fais des choses qui sont pas correctes, je suis collé au péché. Si je vais me repentir, c'est quoi la meilleure chose à faire? Me battre avec Donald? Oh! Non, tu ne vas pas m'avoir. Oh, je suis tanné de t'avoir dans ma vie. Oh, je ne veux pas t'avoir dans ma vie. Oh, je déteste ça. Hein? Non? Il me semble que plus je bats, plus je suis proche de lui. Meilleure chose à faire, c'est de tourner de bord et dire, oh, papa, Dieu. Papa. Parce que vois-tu, quand je m'approche de Dieu, je m'éloigne forcément du mal. Donc, c'est pas juste une question de dire, oh non, je vais dire non. La prochaine fois, je vais dire non. Prenez, hein, au lieu de maudire les ténèbres, allumez une chandelle.
Amen.
Amen. Amen. Hey, je m'approche de Dieu, et en s'approchant de Dieu, je m'éloigne forcément, automatiquement, du mal.
Amen.
Plus vous êtes en amour avec Dieu, moins vous allez faire des bêtises. Est-ce que c'est clair, n'est-ce pas? C'est ça que la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Laissez-moi vous dire que c'est pas toujours plaisant sur le coup de se repentir. C'est une chose qu'on prêche très rarement, on devrait le prêcher plus souvent. Il y a une tristesse qui est une bonne tristesse. Ce n'est pas une tristesse selon le monde, mais c'est une tristesse selon Dieu, et je le connais, je l'ai vécu à l'âge de 16 ans. Parce que moi, pendant une période de un an et demi, j'étais vraiment révolté contre le Seigneur. J'ai fait toutes sortes de bêtises. J'ai vraiment maudit le Seigneur. J'ai fait des choses horribles. Moi, je pensais avoir perdu mon salut même. OK? J'ai pas fait des choses si horribles dans le naturel, mais dans mon cœur, si j'aurais eu un peu plus de temps, je l'aurais fait. Mais, une soirée après avoir eu les prières, je ne sais pas combien de temps, de ma mère, ma tante, mon pasteur, C'était vers minuit, j'étais assis sur mon divan dans notre salon. Toute la famille était déjà couchée. Moi, j'étais en vacances de l'école, vacances, congé forcé, parce que j'avais bu de l'alcool pendant une chose de l'école. Je n'étais pas supposé de faire, donc ils m'ont mis dehors l'école. Ils m'ont dit, bon, toi, tu n'as plus le droit de revenir à l'école pendant une semaine. J'étais bien content. Une semaine de relâche. Mais là, tout d'un coup, et je n'étais pas du tout repentant. J'étais désolé d'avoir été attrapé. Mais je n'étais pas du tout repentant. Sauf que cette soirée-là, j'étais assis à minuit. Et tout d'un coup, ma vie commence à passer devant mes yeux à l'intérieur de mon cœur. Et je me voyais dans la lumière de l'éternité. Je me suis dit, ma vie ne vaut pas grand-chose. J'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup de fun, de plaisir actuellement. Ça va très bien selon le monde. Mais c'est comme je ressentais une vide dans mon cœur et une tristesse profonde. C'était comme attristé. Oh, ma vie ne vaut pas grand-chose. Je me suis couché cette nuit-là et pendant la nuit, le Seigneur m'a délivré. J'ai eu une rencontre puissante avec le Seigneur. J'étais baptisé du Saint-Esprit le lendemain tout seul. Je priais en langue et j'ai reçu un appel au ministère quelques mois plus tard. Mais ça fait 20-quelques ans de ça et je n'ai jamais rétrogradé depuis. Et je peux vous dire que ma vie yo-yo, ma vie de montagne russe, était terminé là, mais qu'est-ce que ça a pris? Ça a pris une tristesse de Dieu. Pas juste désolé d'avoir été attrapé ou oh oui, Seigneur. Moi j'ai fait cette. Moi je connais l'histoire. Hein. On est tenté de faire les choses de la chair et on dit je sais que c'est pas correct, mais je vais le faire quand même parce que de toute façon je vais demander pardon après puis ça va être bien correct. Hey, moi, là, je parle votre langage, hein? Non. C'est pourquoi vous riez? Non. Mais je sais. Je dis cela parce que je sais comment ça fonctionne. Je sais qu'est-ce que c'est d'être un chrétien charnel. Je sais qu'est-ce que c'est de faire les excuses et de se tromper soi-même. Je sais qu'est-ce que c'est. Mais je sais aussi qu'est-ce que c'est d'avoir la victoire. Et de ne jamais plus être redevable à la chair. Et de vivre une vie victorieuse en Jésus-Christ. Et Dieu ne fait exception de personne, vous pouvez le faire aussi. Amen. 2 Corinthiens 7, 9 dit, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir, écoutez, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. S'il y a des choses qui ne sont pas correctes dans votre vie, ça vaut la peine des fois d'être dans le deuil et de pleurer, de dire « Seigneur, ça c'est pas correct, je suis vraiment désolé. Seigneur, montre-moi ça. » Ce n'est pas une chose de la chair, mais c'est vraiment une œuvre de l'Esprit Saint, cette tristesse qui vient de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que la tristesse est remplacée par la joie de Dieu. Une huile d'allégresse remplace les larmes. Et autant vous étiez attristé, autant plus vous êtes dans la joie. C'est ça la chose que le monde a remarqué quand j'étais vraiment transformé. Je suis rentré à l'école ou à l'église et tout le monde, c'est quoi qui s'est passé avec lui? Parce que je rayonnais de joie. J'avais trouvé ma raison d'être. Numéro 5, on va finir avec ceci. Transformez-vous par la parole de Dieu. Donc, voyez-vous le processus? Comment est-ce qu'on peut se juger soi-même? On se soumet à l'autorité de la parole. On s'examine dans la lumière de la parole. On confesse, on dit la même chose que la parole de Dieu dit, la vérité de la parole de Dieu. On se répand selon les instructions de la parole. Et puis, on compte sur Dieu de nous transformer par la puissance de sa parole. Transformez-vous par la puissance de la parole. La Bible dit en Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et je sais qu'après que le Seigneur a fait cette œuvre dans mon cœur, j'étais attristé selon Dieu, puis soulagé selon Dieu, baptisé du Saint-Esprit, je sais que la prochaine chose que le Seigneur m'a demandé de faire, c'était de passer beaucoup de temps dans la parole. Comme j'ai déjà mentionné, peut-être c'est pas possible pour tout le monde, mais à l'époque, j'étais à l'école secondaire, mais je rentrais de l'école, et puis à 3h, 3h30 l'après-midi, jusqu'à 1h du matin, j'étais dans ma Bible. Et ça a duré comme ça pour des mois et des mois. Et c'est pourquoi, 20 ans plus tard, je suis encore debout. Amen. Et vois-tu, pas parce que je suis quelqu'un de spécial, mais c'est parce que Dieu est bon, il nous aime et sa parole est puissante. Il n'y a aucune habitude que vous avez dans votre vie, aucun péché, aucun problème qui est trop grand, trop puissant. Il n'y a rien dans votre vie que la parole ne peut pas ôter. Amen. On va finir Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute sueur, il faut rejeter la sueur et tout excès de malice, recevez avec douceur ou humilité la parole. Tout le monde dit, je vais recevoir la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes, votre intelligence, vos émotions, votre volonté. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, dans ce livre ici, et qui aura persévéré, comme on dit persévéré, n'étant plus ou pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Intéressant, parce que souvent, dans le Nouveau Testament, le mot heureux et béni sont la même chose. On parle de comment ouvrir la porte et garder la porte ouverte aux bénédictions de Dieu. Jugez-vous vous-même et vous ne serez pas jugé. Voulez-vous être épargné de la condamnation de ce monde? Jugez-vous vous-même. Et Dieu est là. Il est là pour vous aider. Il est là pour vous donner la force nécessaire. La grâce de la vie vous appartient. Et si vous marchez dans l'amour, rien ne peut faire obstacle à cette grâce. Et cette grâce va vous donner le pouvoir de marcher au-dessus des tentations, au-dessus des problèmes, au-dessus des mauvaises habitudes. Vous serez vraiment un homme, une femme de Dieu qui est pur, qui est saint, qui est un exemple et un modèle pour les autres. Et c'est ça que je désire pour nous en tant qu'église. Je ne veux pas avoir une église charnelle. Je veux avoir une église spirituelle, ceux qui marchent dans la vérité, dans la lumière, comme il est dans la lumière. Et vous? Et c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous allons continuer à être. S'il y a des choses que vous avez besoin de changer, changez-les, pas dans votre force, mais avec son aide. C'est pourquoi on va, si Tania peut venir jouer, on va recevoir, si les hommes peuvent venir servir, le repas du Seigneur. Aujourd'hui, je vous invite à discerner le corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire d'analyser son corps et ça comprend votre propre vie. Aujourd'hui, moi je crois qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps à perdre. Et vous êtes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Jésus revient bientôt. Et si nous allons avoir une année de plus, comme Dieu veut qu'on ait, il faut qu'on soit les vaisseaux d'honneur. Il faut qu'on soit pur. Il faut qu'on soit libéré. Il faut qu'on marche dans la liberté. Comment est-ce qu'on peut déclarer la liberté aux autres quand nous sommes liés nous-mêmes? Alléluia! Comment est-ce qu'on peut dire, hey, venez à Jésus, il est capable de vous libérer de tout quand nous-mêmes nous marchons dans les liens, quand nous sommes esclaves du péché? Et je sais de quoi je parle. J'ai déjà essayé de témoigner à une jeune femme quand j'étais ivre. Elle venait de se faire violer. C'était une bonne amie à moi. On était au party et on était là au-dessus des étoiles. Et moi, j'étais là. Un bon exemple de Jésus, hein? Non, un chrétien charnel qui avait bu beaucoup trop de vodka cette soirée-là. Et j'étais presque pas capable de me tenir debout. Mais quand elle est venue en pleurant, en disant, hey, parce qu'elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Elle avait trop bu. Elle venait de se faire violer. Elle a dit, ma vie vaut plus rien. Je ne veux plus vivre. Non, la conviction du Saint-Esprit me dit, toi, la vérité. Je dis, mais tu sais quoi? Moi, je sais que je ne suis pas un bon exemple. Mais il y a une raison de vivre. Et c'est Jésus. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, vous dites, mais ouais, c'est facile pour le pasteur de dire, c'est facile pour lui. Lui, il exige trop, il est en train de nous condamner. Non! Je vous aime. Je sais qu'est-ce que c'est d'être un chrétien charnel. et ça pue. Vraiment. J'aime même pas penser à ça. Mais je sais qu'est-ce que c'est d'être un chrétien victorieux qui, pendant 20 ans de temps, n'a jamais rétrogradé. Je n'ai pas dit que j'ai jamais fait des gaffes dans 20 ans, mais j'ai jamais rétrogradé depuis 20 ans. Plus que ça même. Il y a de l'espoir. Père, au nom de Jésus, merci. Montre-nous, Seigneur, par le doigt puissant de ta main puissante. Montre-nous, Seigneur, s'il y a des choses qu'on a besoin de changer. Qu'on prenne un temps ce matin de se juger soi-même et de se soumettre à ta parole, Seigneur, en sachant que si on te donne la chance, tu vas nous donner la force nécessaire de changer. Oh, merci, Seigneur. Pour quelques-uns ici, ils ont besoin d'expérimenter la tristesse selon Dieu. Ils ont besoin de se repentir, changer pour vrai. Pas juste dire, ah oui, je sais. Mais de dire, oh Seigneur, ça va faire. Assez, c'est assez. Et avec ton aide, je ne vais jamais plus vivre de mal. Oh, hallelujah, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne, Seigneur, nous parler. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous les choses à changer. Hallelujah. Et merci, Seigneur, que tu nous donnes la grâce de la vie pour les changer. Si vous êtes ici ce matin, avec tous les yeux fermés, et vous êtes mais pasteur, moi, je ne suis même pas sûr d'avoir reçu la vie éternelle. Je ne suis même pas sûr que Jésus est mon sauveur et mon maître. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Et avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, pasteur, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus pour la première fois ce matin? Lève la main. Peut-être tout le monde ici l'a déjà fait. Il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, vous avez besoin de donner votre vie à Jésus. On va prier tous avec cette personne. Et ensuite, on va recevoir le repas du Seigneur. Et je vous demande maintenant, là où vous êtes, de commencer à juger vous-même. Pas vous condamner vous-même. Le but, c'est pas que vous quittez ce lieu en se sentant condamnant. Peut-être une tristesse, oui, mais pas une condamnation. Parce que cette tristesse va changer en joie et en allégresse. Alléluia. Et même avant que vous partiez, vous pouvez déjà commencer à expérimenter cette joie et cette allégresse si vous êtes sincère et votre cœur bien disposé. Mais prions avec cette personne qui a levé la main. On va faire cette déclaration. Père Céleste, je confesse avec ma bouche que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois de tout mon cœur qu'il est ressuscité des morts. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir tous les jours de ma vie. Je suis ton enfant, je suis né de nouveau, ton Esprit Saint habite en moi, au nom de Jésus. Tout le monde est invité à recevoir le repas.